Oui. Alors, Madame, Mademoiselle, bienvenue à notre réunion. Je suis Corona Depin, société qui, rappelons-le, a pour but de promouvoir la parfaite modestie chrétienne parmi les dames et jeunes filles, qui propose deux moyens pour atteindre ce but. Premièrement, c'est l'union des âmes dans la charité et la pratique de la modestie dans les habits. Et qui demande un petit engagement, c'est la prière quotidienne Notre-Dame de la Sainte Espérance, Ave Maria, Notre-Dame de la Sainte Espérance. Voilà. Nous continuons notre étude sur la mode et la modestie en nous basant sur les discours et les écrits de Pie XII, de ce pape qui rappelait les principes immuables qui sont applicables partout et toujours. Et tout intéressé Pie XII, voilà, il ne pouvait pas négliger la mode, le secteur si important de la vie publique. Jetons un coup d'œil sur ce que nous avons déjà étudié. Est-ce que vous n'avez rien? Attends, je vais passer le temps. Vous avez quelque chose, non? D'accord. Vous avez tout ce qu'il faut. Bon, je vous passe le temps, ce sera peut-être plus facile. Voilà. Facile d'entourage. Voilà, alors une partie que c'est le plan général de tout l'ouvrage, ce qu'on a déjà fait et ce qu'on en fera si Dieu veut. Alors, nous avons déjà posé les fondements. Voilà, c'était la section 1, fondement. Et là, nous avons vu. On respecte d'abord le corps humain parce que l'homme est à la fois matériel et spirituel, les deux ne formant qu'un seul homme. Voilà une vérité qui vaut aussi bien pour les entre guillemets bons païens que pour les sans guillemets bons chrétiens. Mais le corps de ceux-ci demande un respect supplémentaire parce que le chrétien est, par son âme et son corps, membre du Christ, membre de son corps mystique, et aussi temple du Saint-Esprit. Corps qui est destiné à être transfiguré pour être conforme au corps glorieux de notre Seigneur. Et pour cette glorification de notre corps, nous avons besoin d'être guidés, d'être soutenus. Ce que Dieu fait par une sorte de code de la route. Pie XII n'a pas utilisé, mais bon, c'est toujours bien. Une sorte de code de la route vers le ciel, qui s'appelle la morale chrétienne, morale des enfants de Dieu. Et cette morale nous fait voir les choses par l'intermédiaire de l'Église, comme Dieu les voit, nous fait juger ce que nous devons faire ou éviter, tout comme Dieu le ferait à notre place. Mais ils se sont trouvés les inventeurs d'une nouvelle morale, morale personnaliste, morale de l'homme qui se guide par lui-même, qui n'a pas besoin que l'Église se mêle dans ses affaires. D'après cette nouvelle morale, Dieu regarderait uniquement la conscience de l'homme, et pour autant qu'elle soit sincère, c'est bon. La bonté ou la malice de l'acte ne compterait plus. Mais Pie XII répond « niet ». Trois fois niet. Il refuse cette erreur. D'abord, l'action doit être bonne. L'intention même droite, ne suffit pas. Tout simplement, la conscience doit être formée. On peut déformer notre conscience. On peut être formé. Deuxièmement, on ne peut pas faire le mal pour arriver au bien. Autrement dit, la fin ne peut pas sanctifier les moyens. Et troisièmement, on est parfois obligé de sacrifier même sa vie pour sauver son âme. Bien. Alors, les fondements, une fois posés, passons à la suite de notre étude sur la mode. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à là? C'est un petit résumé, c'est bon. Ça va? Bien. Dans une allocution adressée aux membres du premier congrès international de la haute couture, Pilose analyse le but que l'homme s'est toujours fixé en faisant usage du vêtement. Je cite. Suivant le conseil de l'antique sagesse, qui voit dans la finalité des choses le suprême critère de toute évaluation théorique et la sûreté des lois morales, il sera utile de rappeler quel but l'homme s'est toujours fixé en faisant usage du vêtement. Il obéit, sans nul doute, aux trois exigences connues, celles de l'hygiène, de la pudeur et de la bonne présentation. Telles sont les trois nécessités si profondément enracinées dans la nature qu'on ne peut les méconnaître ni les contrecarrer sans provoquer de la répulsion et causer des torts. Aujourd'hui, le pape parle en l'an 1957. Aujourd'hui comme hier, elles conservent leur caractère de nécessité. Elles se rencontrent presque dans chaque race. On les observe sous toutes les formes de la vaste gamme qui concrétise historiquement et ethnographiquement le besoin naturel du vêtement. On va expliquer plus tard, ne vous inquiétez pas. Il est important de noter l'étroite et solidaire interdépendance entre les trois exigences en question, bien qu'elles proviennent de sources différentes. L'une du côté physique, c'est l'hygiène. L'autre du côté spirituel, c'est la pudeur. Et la troisième, du complexe psychologico-esthétique. Voilà, c'est la bonne présentation. Fin de citation. Dans ce passage, Pilose nous rappelle quelques vérités fondamentales. Tout d'abord, on juge la valeur morale d'un acte, s'il est bon ou mauvais, à partir du but poursuivi. Tout simplement, il ne suffit pas que l'action soit bonne ou indifférente, le but doit l'être aussi. Un exemple, si vous voulez bien. Bon, faire une promenade peut être en soi une action bonne ou indifférente. D'accord ? En soi. Alors, je peux me promener pour me recréer, par exemple, un autre, par exemple, mon ami qui est découragé. Voilà. Le but est bon, l'action l'est aussi. Mais je peux me promener pour faire l'école buissonnière. Mais oui, mais c'est toujours la même promenade. Quelqu'un qui regarde extérieurement, voilà, il fait sa promenade. Bon. Ou bien pour repérer le lieu, l'environnement des maisons, avant de ne pas les voler. Voilà, le but est mauvais, malgré l'action elle-même, qui est au moins indifférente. Voilà. Donc, une action peut devenir bonne ou mauvaise en fonction du but poursuivi. Par conséquent, il faut voir quelle fin l'homme recherche lorsqu'il fait usage du vêtement. Voilà. Alors, l'homme, lorsqu'il se vêtit, il obéit aux trois impératifs. Déjà vu ici. On explique tout petit peu le texte du Pilose. Il obéit à trois impératifs. L'hygiène, la pudeur et la bonne présentation. Ces trois éléments sont bien enracinés dans la nature humaine. On peut les méconnaître, on peut les contrecarrer, mais attention, cela cause déjà, des torts à l'homme et à la société. Voilà. Et parce que c'est naturel, tout homme, s'il le veut, peut le découvrir dans sa propre nature. Et cela vaut toujours et partout. Et pourquoi? Parce que la nature ne nous quitte nulle part, elle ne nous quitte jamais. Même chez le peuplade le plus primitif, on observe le port d'un minimum de vêtements. Le minimum, d'accord? Minimum. Bon. Au moins ça. Enfin, l'hygiène, la pudeur, la bonne présentation, tous les trois, sont inséparables, étroitement liés, solidaires l'un de l'autre. Les trois répondent ensemble à la triple finalité du vêtement. Ils portent tous les trois. L'hygiène. Est-ce que vous savez ce que l'hygiène? Je vous dirai. Alors ce petit Larousse, nouveau petit Larousse, l'année 1968.
Après, il faudrait regarder, il faudrait prendre un Larousse de 1930 et un de 2017, à mon avis.
Alors je vous lis ce qu'il dit par rapport à l'hygiène. Bon, je pense que c'est... Alors ça vient du grec, bien sûr, cela veut dire se bien porter. Bon. C'est peut-être une partie de la médecine qui traite des milieux où l'homme est appelé à vivre et de la manière de les modifier dans le sens le plus favorable à son développement. Bon. Mais ici, simplifiant, ensemble de règles et de pratiques relatives à la conservation de la santé. Je pense que c'est correct. Alors, reprenons notre texte de Pie XII, l'allocution à la haute couture. La nécessité du vêtement sur le plan de l'hygiène, voilà, continue le pape, résulte principalement de quoi? Du climat.
Du
climat, voilà.
Voilà. En général, il fait chaud.
Voilà, c'est pas les vêtements.
Et en or, on ne s'habille pas comme en Afrique. Voilà.
Voilà. Oui, mais nous, les Africains, quand ils viennent se promener, ils ne sont pas du style à se déshabiller, au contraire, ils se protègent aussi du soleil avec des petits peu couches.
Oui, dans le désert.
Voilà. Alors, ça dépend principalement du climat, de ses variations et d'autres agents extérieurs, envisagés comme cause possible d'incommodité ou de maladie. Voilà, même ici, parfois il pleut, parfois il fait chaud, un peu trop chaud, ou parfois il y a de la neige, miracle.
Parfois.
Incommodité ou de maladie. Alors, de l'interdépendance, c'est-à-dire que les trois dépendent mutuellement, les trois hygiène, pudeur, bonne présentation, dépendent l'une de l'autre, tous les trois. De l'interdépendance mentionnée plus haut, il découle que la raison, ou plutôt le prétexte hygiénique, ne suffit pas pour justifier une déplorable licence, particulièrement en public. Ça ne suffit pas que ça soit hygiénique. Ça répond à l'hygiène. Il est clair que il est clair que la nécessité du vêtement sur le plan de l'hygiène découle principalement du climat, voilà, et de ses variations. Mais souvenons-nous encore une fois que tous les trois éléments concourent à la nécessité du vêtement. Voilà, tous les trois sont étroitement liés. Se vêtir d'une manière conforme au climat d'un pays ou aux variations de la température est une chose, voilà, en tirer le prétexte d'une déplorable licence, particulièrement en public, en est une autre. Il ne faut pas en profiter. Pie XII montre aussi comment l'interdépendance entre l'hygiène, la pudeur, la bonne présentation joue dans des cas différents. Voilà, une façon de s'habiller nuisible à la santé, cela veut dire à l'hygiène, dont l'histoire de la mode nous offre maints exemples, ne peut être légitimée par le prétexte esthétique. Vous avez un exemple? Peut-être des corsets d'autrefois où la femme était bien serrée. Ah, je ne pense pas que ce soit bon pour la santé.
Non.
Ça faisait esthétiquement peut-être bien.
Oui, esthétiquement, mais pour la santé, c'est nul.
Je pense que c'est invisible. Voilà. D'accord. Et d'un autre côté, par exemple, il faut aller à l'hôpital, il faut, je ne sais pas, subir une opération chirurgicale. Alors, bon. Il faut aussi que les règles communes de la pudeur fléchissent parfois devant le besoin d'un traitement médical. Voilà, qui, attention, bien qu'il paraisse les transgresser, les respecte au contraire en usant des précautions morales requises. Bon, normalement. Bon, j'ai dû subir par exemple une opération chirurgicale. Bon, je n'étais pas tout nu. Il y avait au moins un minimum. Au moins ça.
Ben moi, quand je vais aux gens à l'hôpital, les gens, c'est en été, oui. Tout nu sur le lit.
Tout nu? Oui. Ah,
parce qu'en plus, avec les grandes baies vitrées.
Non, ça c'est pas bien.
Regardez,
il n'y avait pas de précaution morale requise hein, dans votre cas. Bon. Bon. Et la pudeur, est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce que la pudeur?
C'est une façon de se tenir, de se poser, une façon de se montrer, une façon de ne pas se dévoiler aussi.
Oui, vous êtes prêts. Alors bon, d'abord, la pudeur au sens large, ce que plus ou moins tout le monde comprend.
Se réserver pour Dieu.
Joli. La pudeur au sens le plus large, la pudeur de ses sentiments, de sa misère, de tout ce qui touche à l'intimité, au secret de la personne, comprend également ce qui, dans le domaine physique, n'est pas exposé aux yeux d'autrui. Voilà. C'est ça au sens large. D'accord?
Bon.
Et la pudeur. C'est enregistré. Et la pudeur au sens strictement moral. Bon, je vais vous dire si vous le voulez. Comprise dans son sens strictement moral, la pudeur, c'est pidos, la pudeur est fondée sur la tendance innée, et plus ou moins consciente de chacun à défendre contre la convoitise aveugle d'autrui. Eh bien, un bien physique propre, et pourquoi? Afin de le réserver, suivant un choix prudent de circonstances, au sage but assigné par le Créateur, on va le voir tout à l'heure, et placé par lui-même sous l'égide de la chasteté et de la pudeur. Fin de citation. On va expliquer, ne vous inquiétez pas. Mais citons un autre texte tout de suite. Dans un autre texte, Pie XII va exprimer la même réalité en soulignant le caractère infus par la nature et la grâce du sentiment de la pudeur dans les âmes. Pardon. La grâce ne supprime pas ce sentiment inné dans la conscience de tout homme. Alors, ça c'est naturel. Mais l'élève au plan surnaturel, au plan de l'amour de Dieu. Ça, vous avez parlé tout à l'heure, d'accord? De la sorte, il reçoit comme un nouvel éclat, pardon, une nouvelle force. Cette transformation de la pudeur, opérée par la grâce, fera que, tout en restant fondé sur la tendance innée de chacun à défendre un bien physique propre, selon l'ordre voulu par le Créateur, elle sera en plus fondée, intégrée dans la grâce, qui, elle, une phrase qui est longue, nous porte à garder notre corps, membre du Christ, c'est notre rang, vous voyez maintenant, c'est notre corps comme membre du Christ, dans une chasteté parfaite, chacun selon son état, par fidélité à l'Esprit Saint. Eh bien, si on n'a pas compris, Pie XII va illustrer par un exemple d'une jeune martyre. Citation. Comme la nature a mis en chaque créature un instinct qui la pousse et la porte à défendre sa propre vie et l'intégrité de ses membres, voilà, c'est naturel. Ainsi, la conscience et la grâce, nature et la grâce, qui ne détruit pas, mais perfectionne la nature, infuse, les deux, dans les âmes comme un sens supplémentaire, qui les met en garde vigilante contre les dangers qui menacent leur pureté. Cela est spécialement caractérisé chez la jeune fille chrétienne. Et maintenant, l'exemple de cette jeune fille. On lit dans la Passion des saintes Perpétue et Félicité, qui étaient ces deux dames. Alors, Perpétue venait d'être mère, Félicité, son esclave, était sur le point de le devenir, lorsqu'elles furent arrêtées. Elles reçurent le baptême pendant leur séjour en prison. Elles furent exposées aux bêtes dans l'amphithéâtre de Carthage en 203 et achevées par le glaive. Les noms de Sainte Perpétue et Félicité sont inscrits au canon de la messe. Alors reprenons. On lit dans la Passion de Sainte Perpétue et Félicité que dans l'amphithéâtre de Carthage, quand la martyre Perpétue, lancée en l'air par une vache féroce, retomba dans l'arène, son premier soin et son premier geste furent de rajuster sa tunique, qui s'était déchirée sur le flanc pour le recouvrir, plus attentive encore à la pudeur qu'à la douleur. Fin de citation. Alors, c'est Pidus dans son allocution aux jeunes filles de l'Action catholique, 6 octobre 1940. Et plus près de nous, le meurtrier de Maria Goretti, d'ailleurs canonisé par Pidus lui-même en 1950.
Ah non, c'est certainement.
Oui.
Ah oui, j'ai
compris ce meurtrier,
je pensais.
Son meurtrier, je crois.
Oui, c'est meurtrier, après, c'est pour ça.
Ah, plus près de nous, le meurtrier de Maria Goretti a pu donner ce témoignage, alors c'est lui-même qui donne le témoignage, que dans lutte inégale qui les opposa, elle était plus préoccupée de recouvrir ses pauvres chairs dénudées que d'éviter les coups. Alors on a dit, on a un sentiment inné de pudeur. Voilà. Mais ce sentiment inné de pudeur n'est cependant au départ qu'une disposition. Se combine un germe qui est destiné à devenir un jour une fleur. Pour devenir une vertu, comme une fleur, qui soit la puissante gardienne de la chasteté, il faut que cet instinct de pudeur, et comment ? Par le soin du respect et de la sainte tempérance, et en obéissant à leur voix, se développe en vertu de pudicité ou modestie. Modestie, vertu de pudicité, c'est la même chose. Alors voyons, la pudeur comme vertu. Comme vertu. Mais précisons d'abord, c'est que la chasteté. C'est que la chasteté. Alors je donnerai deux sortes de définitions. Alors d'abord, ça vient du Père Sine, initiation à la théologie de saint Thomas d'Aquin. Voilà, c'est toute la scène de saint Thomas est là.
C'est bien.
Mais c'est bien, c'est dit, tout ce qu'il faut. Alors, la chasteté, la vertu de tempérance appliquée aux arts de la génération humaine, voilà, c'est la chasteté. Tout simplement. Le nom implique l'idée de châtiment. Ça vient de chasteté, ça vient de castigare, châtiment. La chasteté, en effet, essentiellement une répression de l'instinct générateur, etc. etc. Je vous donne une autre sorte de définition. La chasteté aux puretés n'est rien d'autre que la juste attitude pratique à l'égard de la fonction génératrice. Elle est donc ordonnée, comme celle-ci, au mariage ou à la virginité. Et les gens mariés ont à la pratiquer non moins que les consacrés, les uns et les autres, selon leur état. Son caractère de vertu commune apparaît spécialement dans la jeunesse, qu'elle garde disponible aussi bien pour la virginité que pour une vie pure dans le mariage. Donc la vertu de chasteté n'est pas la même chose que la vertu de pudeur. La vertu de pudeur est la gardienne vigilante de la vertu de chasteté. Elle, la pudeur, nous fait remarquer spontanément ce qui, dans notre attitude intérieure, c'est quoi ça ? Voilà, en face de certaines pensées ou imaginations, comme dans notre comportement extérieur, peut être nuisible à l'intégrité de la chasteté. L'éducation de la pureté exige la garde et le soin de la pudeur et la formation à la modestie. Et attention, il n'est pas question de favoriser un sentiment de peur, mais de tout faire servir au respect d'un mystère qui est grand. La vertu de pudeur est aussi le solide rempart de la chasteté. Mais pourquoi ? Parce qu'il modère les actes qui se rattachent de plus près à l'objet propre de la chasteté. Et puis 12 continue. Voilà. Il n'est pas question de condamner les actes ordonnés à la transmission de la vie. Voilà. Mais de la maintenir dans l'ordre voulu par le Créateur. La pudeur exige que des actes déterminés, honnêtes en soi, parce que divinement voulu, Dieu le veut, soient protégés par le voile discret de l'ombre, et par la réserve du silence, comme pour les concilier le respect dû à la dignité de leur noble but. Pilous. Alors on a trois choses. Respect, ajoutons maîtrise de l'instinct, ajoutons encore, et surtout, quoi ? Charité. La charité. Et on pourra définir la chasteté chrétienne comme parfaite et courageuse maîtrise de la fonction génératrice dans un respect sacré inspiré par la charité. Pour les gens mariés, la pudeur est une puissante gardienne de l'amour conjugal. Amour qui a pour modèle quoi ? Madame.
La Sainte Vierge.
Quoi d'autre ?
Saint Joseph.
Quoi d'autre ?
Attendez, redites-moi.
Voilà, c'est pour savoir si vous suivez. Alors, l'amour conjugal. Quel est le modèle le plus parfait de cet amour conjugal ?
La Sainte Famille.
Plus parfait.
Plus parfait encore la Sainte Famille.
Oui, mademoiselle.
Parce qu'en toute la Sainte Famille, il y a qui ?
Alors bon. Alors c'est l'alliance entre notre Seigneur et son Église.
Ah oui, c'est vrai.
Cette alliance qui a été conclue sur la croix. Mmh. Bon. Pour les non-mariés, pour les vierges, la pudeur est la gardienne de la chasteté parfaite de ceux qui librement renonce au mariage pour répondre à l'appel de Dieu, suivre sa vocation. D'après vous, madame, mademoiselle, laquelle des trois est la plus importante ? L'hygiène, la pudeur ou la bonne présentation ?
L'hygiène,
la pudeur, la pudeur.
Voilà. De toute façon, là, on traîne l'autre, hein.
Oui, forcément.
Si on n'a pas de pudeur, on rejette l'hygiène, on respecte la bonne présentation.
Bon, alors répondant avec le commentateur, commentatrice, l'hygiène relève de l'ordre physique. D'accord, c'est ce qui est plus bas. D'accord. Il fait froid, je mets une couche un peu plus importante. D'accord. Il fait chaud, j'enlève tout de suite, mais je garde tout ce qu'il faut. L'hygiène relève de l'ordre physique, la règle pratique relative à la conservation de la santé. La bonne présentation dépend de tout un complexe psychologique et esthétique. Voilà. Nous allons le voir tout à l'heure, dans un instant. Eh bien, la pudeur a primauté sur les deux autres exigences. Et pourquoi ? Parce que seule, elle est d'ordre spirituel. Spirituel, beaucoup plus important. C'est en tant qu'enfant de Dieu que la femme chrétienne, la jeune fille, et tout homme, pour ne pas toujours viser des jeunes filles, et dames, et tout homme, veulent s'habiller. Voilà, ils s'habillent comme un enfant de Dieu. Le corps, objet du vêtement, c'est le corps que le vêtement couvre, est membre du Christ, temple et instrument de l'Esprit Saint.
C'est un vase sacré, c'est quelqu'un.
Même si boire, et ainsi a déjà la Sainte Présence dedans, il est couvert.
Ben oui.
Tabernacle, il est couvert, parce qu'il y a quelqu'un qui est dedans. Vous allez voir, au dépouillement de l'autel, on enlève le canopé.
Oui.
On ouvre tout, il n'y a rien dedans. Mm-hmm. Yeah. Voilà. Et voici la troisième finalité du vêtement. D'où la mode tire plus directement son origine, et qui répond à l'exigence innée, ressentie surtout par la femme, qui écrit, c'est pas mal. Ressenti surtout par la femme, de faire ressortir la beauté et la dignité de la personne, avec les mêmes moyens employés pour satisfaire les deux autres. Pour éviter de restreindre l'étendue de cette troisième exigence à la seule beauté physique, et beaucoup plus pour soustraire le phénomène de la mode au désir de séduction, on le voit aujourd'hui, sa première et unique cause, l'expression « bonne présentation », dit le pape, est préférable au mot « ornement ». Il préfère utiliser « bonne présentation »
comme ornement. C'est plus modeste comme terme, comme ornement.
Voilà, parce que dans l'ornement, vous allez mettre tout. Voilà, « bonne présentation », c'est quelque chose qui doit être bon, et pas seulement présentation. L'inclination au bon aspect de la personne elle-même procède manifestement de la nature et est partant légitime. Et pourquoi cette bonne présentation? Voilà. Pourquoi? Vous avez des idées? Mademoiselle, maintenant, vous. Voilà. Pourquoi?
Parce que c'est une manière de faire ressortir ce qu'il y a de meilleur en nous aussi, que de bien se présenter. Et ça suppose les deux premiers plans, de toute façon. Aussi, enfin, je pense.
Oui. C'est une charité.
Oui, aussi.
Oui, vous êtes plus près. Oui.
C'est une charité par rapport aux autres. Puis bon, normalement, ça peut être un reflet de l'âme.
Oui.
Très bien. Alors, retenons trois arguments. Premièrement, vous avez tout à fait raison. Pour rendre gloire à Dieu, qui nous a donné notre corps. Notre frère le corps, comme dirait saint François d'Assise, dont il appelait le frère âme. S'il n'est pas parfait, corrigeons-le avec douceur et charité, comme nous corrigeons l'homme. Ces déficiences éventuelles, ne peuvent venir que de quoi? Que du péché et de ses conséquences. Ça vient de ça.
Ça vient de ça.
Ah, mais oui, toutes les maladies, ça vient du péché de nos premiers parents. C'est sûr. C'est péché, non, quand même.
Il y a quand même Jésus, à un moment, l'aveugle, là, que Jésus, il a dit, mais oui, mais il n'est pas aveugle à cause de la faute de ses parents, il est aveugle pour manifester la puissance de Dieu.
Mais c'est le péché originel qui a provoqué.
Enfin, oui, après, c'est le péché originel.
Voilà. C'est-à-dire, parce qu'en fait, par le péché originel, on a perdu un don.
Oui.
Un don spécial qui... Je ne sais plus comment ça s'appelle-t-il. Faut m'excuser, mais parce que normalement, naturellement, notre corps, ça s'use, d'accord, ça s'use, voilà. Mais on était doué d'un don spécial. Si nos parents avaient été sages, on aurait hérité. Voilà. Bien. Alors, en attendant. Alors, corrigeons-le. Alors, rendons-le, notre frère Anne, plus bon. Si possible, plus vrai et plus en harmonie, c'est important, plus vrai et plus en harmonie, ou plus en harmonie, avec notre profession, les personnes que nous fréquentons, et les obligations qui découlent de notre métier, de notre vie de famille, et des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons placés. C'est important. Soyons cependant persuadés que la distinction qui fera qu'on nous aborde avec respect consiste avant tout en simplicité, grâce et authenticité. Grâce, c'est pas la grâce, elle sanctifie, c'est, je pense, agrément, un attrait particulier d'une personne. Voilà, ça c'est la grâce. Alors, après la gloire de Dieu, après Dieu, nous descendons un peu plus bas. Alors, bonne présentation, c'est pour embellir le monde, pour réjouir notre prochain. Ayant toujours une coiffure soignée, une tenue agréable, par respect de nous-mêmes et de ceux qui nous entourent. Vous vous souvenez de la citation de Saint François de Sales qui disait à Philothée, Philothée, sa fille spirituelle. Citation, qu'il n'y ait rien sur vous de traînant et mal agencé. C'est un mépris de ceux avec lesquels on converse d'aller parmi eux en habit désagréable. Voilà. Mais gardez-vous bien des affaiblis, je ne sais pas ce que ça veut dire, vanité, curiosité et folâtrerie. Qu'est-ce que sont affaiblis? Bon, des choses supplémentaires qui sont,
bah,
qui sont de
des gadgets.
Des gadgets. Voilà.
Je ne sais pas, mais c'est du vocabulaire de Saint-François de Sales, donc il y a plein de mots qui sont pas comme chez nous. Hein.
D'accord.
Ça n'a pas été traduit, il n'y a pas eu de affecterie.
D'accord. Mais vous comprenez l'idée, d'accord?
Oui, bon. Je pense que ce gadget, c'est plein de petits jeux de mots. Bref.
Alors, D'accord. Alors, habillons-nous avec élégance, non pour notre propre satisfaction, mais pour celle des autres, pour réjouir le cœur et les yeux d'un mari aimant, et rendre attrayant son foyer. Ensuite, pour former le goût, le sens du beau et de la simplicité chez les enfants. Ah oui, les enfants regardent. Ah ben oui. Pour faire honneur à Dieu le dimanche et le jour de fête. Ah, de s'en endimancher, je ne sais pas si ça existe. D'être en dimanche. À nos hôtes quand nous allons en visite. Ensuite, pour encourager nos élèves. Voilà. Et respecter nos collègues. Voilà, nos collègues. Par un spectacle agréable et gracieux. Pour participer au deuil et à la joie des autres, etc. Oui. Vêtements dit tout. Dit beaucoup. Voilà. On ne s'habille pas. Pour montrer le deuil, on va au mariage et vice-versa.
Encore maintenant.
On parle de temps normand. Bon. D'accord. Bon, sinon.
Parce que le noir, il a beaucoup de mariage.
Oui, c'est ça.
Et que si un noir enterrement, il met une tenue n'importe quoi.
Parce que les gens ont perdu le goût, ils ont perdu. D'abord, il n'y avait pas une sorte de transmission, parce que cela se transmet. Il n'y avait pas une sorte de transmission, il y avait une coupure, c'est l'année 68 peut-être, voilà.
On s'habille quand même. C'est du lavage de cerveau,
oui, doucement.
Pour les enterrements, c'est la famille proche, ça reste quand même noir. Après, pour les mariages, il y a toutes sortes de couleurs, mais c'est
vrai. Bon. Ça fait longtemps que je ne parle pas en mariage, c'est pour ça que j'oublie. Alors, continuons, si vous voulez bien. Alors, pour rendre gloire à Dieu, pour embellir le monde et réjouir notre prochain, et troisièmement, on a monté en haut, on a descendu plus bas, on remonte. Pour être d'autant mieux instrument de l'Esprit-Saint. De l'Esprit-Saint. Alors, l'Esprit-Saint s'est emparé de nos corps et âmes, ou de nos corps et âmes, pour en faire l'instrument de son amour dans le monde. Un amour qui est bien compris. Un amour qui veut sauver les âmes. Il est trop évident que la beauté physique du corps ne doit jamais être une fin en soi. Encore moins une occasion de séduction ou de péché. Voilà. Même si on ne veut pas. Les autres qui nous regardent, qu'on n'est pas bien habillé, comprend autrement ce que nous voulons dire. Notre vêtement dit soi-même. Bon. Alors, encore moins une occasion de séduction ou de péché. Alors, notre corps, temple et instrument de l'Esprit de Dieu. Toute sa gloire doit consister à manifester et à communiquer la lumière et le feu de la charité divine. Voilà. Qui, elle, n'est pas envieuse, n'est pas fanfaronne, n'est pas affectée. On se souvient le cantique de la charité, ou sur la charité de Saint Paul. Qui ne fait rien d'inconvenant, ne s'enfle pas d'orgueil. C'est pourquoi Pidouze préfère au mot ornement celui de la bonne présentation, que nous pourrions traduire par l'élégance, fleur de la charité. Et quelqu'un disait, L'élégance, c'est autre chose que l'opulence, le luxe et la diversité. C'est donc tout autre chose que la haute couture, ou la mode d'avant-garde. L'élégance vestimentaire n'est pas tout. Il faut y joindre l'élégance morale. Mais en quoi consiste cette bonne présentation, un peu plus concrètement? Par exemple, pour la jeunesse. La jeunesse, qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande à l'habillement de lui procurer cet éclat et cette splendeur qui chante, c'est toujours le Pidouze, vous écoutez, qui chante l'hymne joyeux du printemps de la vie. Hymne joyeux du printemps de la vie. Et favorise, en harmonie avec les règles de la pudeur, les prémices psychologiques nécessaires à la formation de nouvelles familles. C'est beau, voilà, il dit tout, des choses qui... il y avait un art justement de dire tout d'une manière très simple. À une autre occasion, Pidouze dira à deux jeunes filles. Alors c'est l'allocution aux enfants de Marie. Pureté et force, Pidouze. Ces deux vertus, nécessaires en tout temps, mais plus que jamais dans le nôtre, 1942-2017, font les deux ensembles, pureté et force, le véritable charme et la protection de la jeune fille, qui réunit en elle la grâce et la dignité, la retenue pleine de modestie et la franche et audacieuse activité. Vous, chère fille, c'est toujours le pape, vous, n'oubliez pas que cette pureté, cette candeur doit vous préparer au devoir de demain, vous soutenir dans les rudes devoirs d'aujourd'hui. Ce n'est pas tout à coup que Marie, Notre-Dame, se trouva prête à dire son fiat. Elle s'y est préparée, et comment? Par sa force d'âme, non moins que par sa pureté. Et pour la jeune fille consacrée à Dieu, Pidouze est loin d'exclure pour elle la bonne présentation. Eh bien oui, Monia doit s'habiller correctement. Pas n'importe comment. Ouais, même, voilà. Voilà. Il la suppose, cette bonne présentation, chez toute jeune fille. Alors, Pidouze. Dieu ne vous demande... Bon, il faut bien compris ce que va dire. Peut-être qu'on peut mettre quelques mots à l'explication aujourd'hui. Mais bon, citons. Dieu ne vous demande point de vivre en dehors de votre temps, de rester indifférente aux exigences de la mode, de la bonne mode, au point de vous rendre ridicule en vous habillant à l'encontre des goûts et des usages communs de vos contemporaines. Comprenez? Bon. Sans vous préoccuper jamais. Bon, ça va? Bon. Je ne sais pas si Pidouze pourrait voir ce qui... Je pense que oui, parce que c'est déjà le temps de diminuer pour Pidouze. N'est-ce pas? Non? C'est pas encore?
Si, parce que c'est vrai que des fois, quand on voit des photos de fêtes dures en série, les filles, elles ont toutes des jeux courtes.
La petite fille.
Ah oui, mais quand on voyait des photos, je ne sais pas si c'est le début du siècle, mais c'est au moins du 21e siècle, et avant, oui, il y a peut-être
un bon. Ouais. Excuse-moi. Bon, et pour l'âge mûr, toujours Pidouze à la haute couture, mais c'est bon, écoutons. L'âge mûr cherche, en moyen d'un vêtement approprié, c'est bien vu, propre, cela veut dire propre à son âge et pas à un âge d'une jeune fille. À s'entourer de dignité, de sérieux et de joie sereine. Dans tous les cas où l'on vise à accentuer la beauté morale de la personne, la façon du vêtement sera-t-elle qu'elle rejettera, pour ainsi dire, la beauté physique dans l'ombre sévère du mystère ou la détourner de l'attention des sens et concentrer, au contraire, à l'attention sur l'esprit. Et on se souvient de la parabole de la femme forte. Une femme forte, une femme parfaite, qui la trouvera? Elle a bien plus de prix que la perle. Force et dignité la revêtent. Avec sagesse, elle ouvre la bouche. De sa maisonnée, elle surveille le va-et-vient. Elle ne mange pas le pain dans l'oisiveté. Ses filles se lèvent pour la proclamer bienheureuse. Son mari pour faire son éloge. Voilà ce qu'il dit. Nombre de femmes ont accompli des exploits, mais vous, vous les surpassez toutes. La grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. Vaine la beauté. La femme qui craint le Seigneur, voilà celle qu'il faut louer. Ainsi soit. Voilà la triple finalité du vêtement, l'hygiène, la pudeur et la bonne présentation. Alors, rappelons, j'aime beaucoup le rappeler parce qu'on a tout petit peu une image un peu bancale, je trouve. Rappelons ce que Dieu a fait après le péché d'Adam et Ève. Il les a habillés. Mais comment? Comment? Pas avec une sorte de... excuse-moi, de feuilles d'érable, ce qu'on voit souvent. Non, c'est pas ça.
C'est eux qui sont habillés comme ça, avec du linge.
Alors, il y avait Dieu, fit à Adam et à sa femme
un vêtement.
Des tuniques.
Oui.
Des tuniques de peau. Et les ont revêtis.
De peau? De oiseau
de peau? De peau. P-E-A-U. De peau.
De peau.
Ah, de peau.
De peau.
Ah, de peau d'animaux.
Ouais, une tunique, c'est pas facile de faire. Ça couvre bien, c'est hygiénique, vous savez tout ce qu'il faut. C'est un premier vêtement qui répondait à trois exigences. Et c'est fait au ciel. Très bien. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'était clair plus ou moins?
Oui.
Non, ouf, pour une fois. Alors, pour la prochaine fois, nous allons voir, si vous voulez bien, soit la suite, cela veut dire qu'on va voir le chapitre 2 de la section 2, comment se pose le problème de la mode, qu'est-ce que la mode, y a-t-il un problème moral de la mode, etc. Ou bien, j'ai trouvé ce matin trois livres dans notre casier que le père Prière m'a passé, en demandant peut-être quelqu'un voudrait lire et faire un résumé. Soit pour la prochaine fois, soit pour une fois.
Ah oui, parce que ça ne dérange pas, mais alors, non, quoi. Non, je n'ai pas mais soulignant, je peux t'en délire.
Alors, bon, je ne sais rien. Bon, on va lire Adieu Simone, à la dernière paire du féminisme, Gabriel Cluzel. Alors, je vais lire ce qu'il dit. La cérémonie des adieux, c'est le titre Somme toute prophétique d'un livre de Simone de Beauvoir. Je pense que ce n'est pas une personne qui soit recommandable. Mais on peut le dire aussi sans cérémonie. Adieu Simone. Voilà. Je pense que Simone de Beauvoir, c'est une féministe, je pense. Non?
C'est pas ça? Je peux dire oui.
Voilà. Je pense qu'on a entendu une fois. Alors qu'il essaie un peu de réfuter. Après avoir exigé la libération de toutes les femmes et de toute la femme, le féminisme a finalement voulu libérer la femme d'elle-même. Et ce faisant, il l'a niée. Sous prétexte de la libérer du joug patriarcal, il a installé une tyrannie plus ou moins feutrée qui entend régenter la grammaire, révolutionner les catalogues de jouets, renvoyer les mères récalcitrantes au travail et s'immiscer dans l'intimité de chambre à coucher. Mais les cris stridents des harpies, etc. Bon, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous voulez lire, mademoiselle?
Moi, je veux dire, mais est-ce que je ne peux pas faire un résumé pour la prochaine fois?
Très bien, ça peut être une autre fois.
Oui.
Une autre fois. Voilà, c'est Roland Sauter. Alors, je vous lis le table de matière. Bon, les titres ne sont pas peut-être.
Dernière.
Par exemple, féminisme dérisoire. la libération homosexuelle, violence faite aux femmes, le travail des femmes, féminisme et islam, la voie est libre. Si vous voyez des passages qui sont un peu, comment dire,
un peu cru.
Voilà, un peu cru. On n'hésite pas de me signaler.
D'accord.
Voilà, on peut peut-être les tourner autrement.
Il faut l'écrire sur lui.
Oui, pour écrire en pas peut-être avec un livre, mais avec un crayon. D'accord. La Gabrielle Cluzel est journaliste, rédactrice en chef de Boulevard Voltaire. Bon. Elle porte sur le mouvement politique et culturel un regard éclairant par des chroniques dans Monde et Vie et Famille chrétienne. C'est mieux que rien. On va voir. Bon. De toute façon, je pense qu'on pourrait trouver des choses qui sont intéressantes. Hein. Oui. Même si on ne peut pas être d'accord avec tout. D'accord ? Voilà. Par Dieu, si.
C'est comme vous voulez, hein. Elle est chouette, attends.
D'accord. C'est pas forcément elle que. Ah, sur elle que je prends la modèle, mais bon, après.
Et deux autres livres. Je pense un des livres pour un monsieur, un autre pour la femme.
Tiens,
je pense que c'est pour une dame. Bon, la photo derrière n'est pas descendre, je suis désolé. Mais bon. Marie-toi et sois soumise, pratique extrême pour femmes ardentes. Bon. Comme je vous ai dit, c'est pour la. Bon, je l'ai vu il y a tout à l'heure.
Avant de lire aussi, voilà, j'ai un problème. Surtout faire des résumés, j'en suis plus incapable.
Bon, il peut y avoir un peu tout. Madame, est-ce que vous voulez essayer? Non?
J'ai du mal à tout comprendre.
Ah, d'accord.
Il y a plein de choses qui vont trop. Déjà, à dire, c'est une épreuve, parce que j'ai le problème de vue.
Bon, je vais passer à la deuxième groupe qui sera mardi.
Oui.
Très bien.
C'est vrai, il faut avoir du temps, c'est ça, et puis en ce moment.
D'accord.
J'ai du mal à tout.
Non, vous êtes libre pour le temps, vous me direz quand vous souhaitez. On peut par exemple interrompre notre étude, voilà.
Vous avez vu, je pense que ce sera fini, mais je pense que
ou après, quand vous souhaitez. Quand vous souhaitez. Oui.